Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole en ces débuts de semaine. Dans le cadre de lutte contre la corruption, un code de bonne conduite vient d'être signé entre la Direction Générale de Douane et Accises, DGDA, et l'Observatoire de lutte contre la corruption dans les entreprises publiques. Selon le directeur général de la DGDA, ce code est opposable à tous, à tous les agents donc, et cadres de la DGDA. Certains observateurs estiment que cette signature va empêcher notamment les détournements des recettes publiques. Alors, qu'en pensez-vous? Vous pouvez participer à cette émission en composant, bien entendu, les 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Nous avons le plaisir également de recevoir donc vos commentaires et vous êtes nombreux à avoir lu et commenté ces sujets. Merci de l'intérêt que vous accordez à nos différents sujets. Mimi Kindo assure la mise en onde de cette émission réalisée par Martin Sebujangwe, ses coordonnées présentées par J.R. Lungembo. Bienvenue à tous.
Découvrez les modèles et les talents congolais dans le magazine Étoile. Des hommes et des femmes au parcours exceptionnel. Trouvez une source d'inspiration à travers ces personnes connues et ces citoyens lambda sur Radio Okapi. Étoile, de la découverte à l'inspiration. Radio Okapi vous propose des hommes et des femmes d'exception. Suivez-les dans le magazine Étoile tout le samedi à 14h05 et 19h05, puis en rediffusion le lundi à 15h30, heure de Kinshasa.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci une fois encore de votre fidélité à Radio Okapi. Nous recevons dans ce studio Monsieur Aaron Tchani Kayembe. Bonjour Monsieur Aaron.
Bonjour Monsieur les journalistes.
Alors merci également à notre deuxième invité, Émile Moutambaï Kalongi, qui est avec nous. Bonjour Monsieur Émile.
Bonjour Monsieur les journalistes.
Alors à vous deux, je vous dis bonne arrivée et bienvenue dans cette émission Parole aux auditeurs.
Merci.
Alors d'entrée des jeux, il y a eu cette signature d'un code de bonne conduite à la DGDA. Qu'est-ce qui a motivé d'abord la signature de ce code?
Oui, messieurs les journalistes, la motivation pour la signature de ce code déontologique du douanier, c'est la lutte contre les antivaleurs, dont la corruption. Car vous savez bien, là je peux paraphraser l'OSEP, entendez là l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle. L'OSEP dit qu'un État qui ne met pas l'éthique et la bonne gouvernance au centre de son action est un État qui s'autodétruit. De même, une entreprise qui ne fait pas de la lutte contre les antivaleurs, dont la corruption bien sûr, sa priorité, est une entreprise qui se ruine. Vous comprenez, monsieur le journaliste, que la DGDA ne pouvait pas passer outre mesure.
Alors, ben, cette lutte ou cette vision de la DGDA ne date pas d'aujourd'hui. Parce que ce n'est pas par cette signature que la DGDA vient de démarrer la lutte contre la corruption.
Effectivement, il y a un engagement clair. Un engagement clair de la part de l'autorité de la DGDA, autrefois l'OFIDA, aujourd'hui DGDA. C'est monsieur le directeur général Deo Ruguiza Magera qui, déjà à son entrée, à son avènement à la tête de cette grande régie financière qui est la DGDA, il avait annoncé ses couleurs. Il avait proclamé la lutte contre les antivaleurs. Il avait dit que les comités de gestion qu'il allait conduire allait s'engager résolument dans la lutte contre la corruption et devait faire de la bonne gouvernance son cheval de bataille. Voilà, c'est une lutte qui a commencé depuis bien longtemps, je dirais depuis 2005, où il y a eu l'engagement clair de la part de l'autorité de cette régie financière DGDA.
Depuis 2005, si nous faisons des calculs, 14 ans après, au regard de train de vie des douaniers, en tout cas de manière générale, au regard de train de vie de certains douaniers ou de certains agents et cadres de la DGDA, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a un paradoxe entre la lutte contre la corruption, la corruption qui est décriée par l'ensemble de la population à l'endroit de ces douaniers, et les recettes réalisées par la DGDA. En principe, s'il y avait vraiment un cas de corruption avéré, cela n'aurait pas eu l'impact positif au niveau des recettes. Mais nous remarquons depuis plusieurs années maintenant, la DGDA arrive à faire des assignations au-delà.
Oui, le constat est réel. C'est-à-dire, le douanier s'est approprié la vision managériale du DG Rugwiza, qui a le cheval comme cheval de bataille, la lutte acharnée contre les antivaleurs, que lui-même a résumé dans un acronyme CFDTI. Entendez par là, C comme corruption, F comme fraude, D comme détournement, T comme tracasserie et I comme impunité qu'il faut combattre. Il l'a toujours fait et les douaniers s'est approprié cette vision. Et voilà, les recettes suivent. C'est ce que d'aucuns qualifient d'une véritable révolution à la matière de mobilisation des recettes de l'État. Vous savez, le premier citoyen de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décrété la lutte contre les antivaleurs, dont la corruption, son cheval de bataille également. Donc, c'est la colonne vertébrale de l'action qu'il mène à la tête du pays. Voilà, la DGDA ne doit que suivre. Et c'est une lutte commencée depuis bien longtemps et qui se poursuit. Vous en avez les résultats.
Voilà. Alors, je prends juste le mot du directeur général de la DGDA lors de la signature de ces accords. Il disait ceci. Je reprends en tout cas ces mots. La nature régulière de ces missions, des missions de la DGDA, les prérogatives qui en découlent, ainsi que l'environnement dans lequel évoluent les agents des douanes, exposent ces derniers à des sollicitations et tentations diverses qui se traduisent notamment par des actes de corruption ou des concussions et tant d'autres mauvaises pratiques. Est-ce que c'est pas là une façon de reconnaître qu'il y a quand même un mal, mais un mal qui n'est pas généralisé, j'imagine.
Oui, bien sûr, le mal qui n'est pas généralisé, parce que vous savez, autrefois, la fronde populaire était dirigée contre les douaniers. Mmh. On tirait à boulet rouge sur les douaniers. Mais aujourd'hui, on peut remarquer réellement que la situation a changé. Deo Rugwiza Magera a su inverser la tendance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut voir que les recettes de l'État sont vraiment collectées d'une manière tout à fait optimale. Donc le douanier a changé. Et je crois bien qu'avec l'avènement de ce code déontologique du douanier, la situation va de plus en plus s'améliorer.
Voilà, les douaniers a changé. Vous êtes nombreux à avoir eu le souci de participer dans cette émission lorsque vous avez vu ce sujet sur notre page Facebook. Nous vous invitons à participer à cette émission pour nous donner la situation chez vous. Vous êtes à Mombasa, à Mombasa, ou vous êtes encore à Lubumbashi, dans la frontière avec la Zambie, ou encore ailleurs. N'hésitez pas d'appeler à cette émission le 081-890-6330 ou encore le 081-890-49-69.
Un jour, une histoire. Un magazine sur le soir du Congo. Révivez les événements importants et historiques du Congo. Découvrez le personnage et acteur de notre histoire ainsi que leur rôle. Un jour, une histoire, c'est l'histoire récente et passée du Congo. Retrouvez toute l'équipe tous les dimanches à 8h30, heure de Kinshasa. En rediffusion le dimanche à 8h30 et 20h30. Le mercredi à 14h15.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Avant d'accueillir les auditeurs pour débattre ensemble et échanger de manière citoyenne sur ces sujets, nous recevons également donc dans ces studios Monsieur Émile, comme je l'avais dit, Émile Moutamba et Kalonji. Avec lui, on va découvrir quand même les contenus de ces codes des bonnes conduites, parce que Monsieur Émile, vous représentez OSEP, l'Observatoire des surveillances des entreprises publiques. Alors aujourd'hui, quel est le vrai contenu de ces codes?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question. Le code comprend beaucoup de dispositions. Je peux vous citer, par exemple, les valeurs de référence de l'agent de douane. Il y a, par exemple, les règles de déontologie et d'éthique professionnelle de l'agent de douane. Il y a une partie qui est consacrée au conflit d'intérêts. Une partie consacrée aux règles d'éthique professionnelle, et puis un chapitre consacré à la promotion et contrôle des normes et de déontologie et d'éthique professionnelle, et puis le dernier chapitre, c'est les sanctions.
Alors, dans la lune de vos missions, c'est aussi observer comment se développe, en fait, ou la prise de conscience des uns et des autres en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Quel est le sondage que vous avez fait ces dernières années quant à cette lutte au sein de la DGDA notamment?
Bien sûr. Nous sommes partis d'une enquête que nous avons menée en 2005. Alors la DGDA, l'OFITA à cette époque, était classée parmi les institutions les plus corrompues en 2005. C'est ainsi que cette enquête a créé un déclic. Hein. C'est ça qui a amené le PDG en ce moment-là, le DG Uruguiza, à approcher l'OSEP. C'est ainsi que nous avons signé un partenariat avec la DGDA. C'est ce partenariat qui nous a conduit à l'élaboration de ce code de déontologie et d'éthique de la
justice. 14 ans, pourquoi 14 ans après?
Parce que... Non, ça c'est bien avant. 2005, c'était l'enquête qui a créé le déclic. Oui, aussitôt après, on a signé un partenariat avec la DGDA. En 2012, nous avons élaboré le code de conduite d'éthique de l'agent de douane.
Oui. Alors, quelles sont les mesures contraignantes qui accompagnent ces codes? Est-ce que vous avez pensé à un acte d'engagement de concerner eux-mêmes?
Oui, bien sûr, il y a un acte d'engagement. Je pense qu'à la fin de ce code, il y a un acte d'engagement que les agents de douane
qui oblige ou qui soumet l'agent aux exigences de ce code.
Aux exigences de ce code, bien sûr. Et si, par exemple, l'agent ne se soumet pas aux exigences de ce code, il sera sanctionné.
Voilà, on va rejoindre les auditeurs qui nous ont rejoints également à ces niveaux du débat. Jules est à Lubumbashi et Justin à Fungurume. Mais Jules, vous êtes avec nous. Bonjour, Jules.
Bonjour, monsieur Jean Lungembo, et bonjour à nos deux invités, à tous les peuples congolais.
Quelle est votre réaction, Jules?
En tout cas, c'est un très bon débat parce que, vous savez, la corruption, c'est une demoiselle qui a ruiné notre pays pendant beaucoup de temps. Alors, moi, je n'arrive pas à comprendre, parce que les codes là, il y a un code minier, les codes de la DGDA, ainsi de suite. Parce que le problème, c'est le suivi. Hein? Vous savez, quand nous avons plusieurs codes, même la loi, nous avons plusieurs lois, mais on n'arrive pas à les contrôler. Et je peux vous donner un exemple ici à Lubumbashi. Quand M. Moïse Katumbi était gouverneur ici, il a essayé de faire un déplacement au niveau de Kasumbalesa et au niveau du péage. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était là pendant toute une journée et qu'est-ce qu'il nous a dit? Il y a les entrées terribles. Il y avait plusieurs millions qui était distribué par certaines poches des individus. Alors, vous savez tout ce qui s'est passé là. Regardez aujourd'hui, dans notre pays, toute la population attend un budget colossal. Regardez, aujourd'hui, nous avons la gratuité de l'enseignement. Tout ça, ça demande beaucoup d'argent. Alors, pourquoi il y a nos invités qui sont là. Et pourquoi notre gouvernement ne doit pas mettre une loi par rapport à la corruption? Si quelqu'un est corruptible ou corrompu, il doit être puni sévèrement, comme nous avons une loi par rapport au viol sur mineur, ainsi de suite, et inculquer dans nos enseignements une nouvelle citoyenneté, mettre un coup, tout un coup par rapport à la corruption. Donc, si vous êtes corrompu,
Oui, Jules, là vous parlez de manière générale, mais pour le cas d'espèce, pour les douaniers, le fait d'élaborer un code de bonne conduite, ça s'inscrit dans cette logique que vous venez d'évoquer, question de pouvoir mettre l'agent devant sa propre conscience.
Oui, ça c'est une très bonne chose, parce que nos invités ont dit que non, les douaniers ont changé. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Parce que c'est depuis 2000.
Mais vous êtes à Lubumbashi. Qu'est-ce que vous avez constaté à Kasumbalesa notamment?
Oui, il y a une petite diminution, mais ça continue. Vous savez, si vous êtes en ordre, M. Jire Lungembo, et avec tous les peuples congolais, si vous êtes en ordre, vous êtes bâclé par ces agents-là. Donc, ils s'occupent plus de vous. Parce que vous êtes en ordre, tout argent est passé par la caisse de l'État. Donc, ils s'en foutent.
Donc, ils préfèrent se manier rapidement avec ceux qui ne sont pas en ordre. Merci.
Voilà, il faut leur donner quelque chose. Voilà
merci beaucoup, Jules. Merci beaucoup, Jules. On va voir si c'est le même cas à Fungurume. Justin, vous êtes avec nous à Fungurume. Bonjour.
Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Gère. Je dis bonjour aussi à nos deux invités qui sont au studio.
Quelle est votre contribution?
Merci, nous saluons cette initiation avec honnêteté. En tout cas, c'est une grande situation qu'ils ont mis en place. Je crois, il est couramment admis que la corruption est la mère des tracasseries ici chez nous au Congo. Si on arrive à éradiquer la corruption, on verra que les tracasseries aussi vont diminuer. Allons tout droit sur les douanes. Donc les fautes ne débutent pas à la corruption du douane. Il y a les débuts là de recrutement. Si vous suivez bien les gens qui travaillent sur le douane, ce sont les frères des ministres, ce sont les frères des directeurs des cabinets, ce sont les frères des hauts placés de notre pays. Donc il se sent un peu intouchable, il peut faire tout ce qu'il a besoin. Or,
Oui, Justin, loin est l'idée pour moi de pouvoir défendre la DGDA, mais est-ce que vous connaissez quand même la procédure de recrutement? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une école qui existe, l'Institut National l'École Nationale des Finances, ENF, je crois que ça n'a pas changé de nom, ça n'a pas changé d'appellation, c'est l'École Nationale des Finances, qui, au fait, est le premier fournisseur des employés au sein de la DGDA ou encore d'autres régies financières en République démocratique du Congo.
Oui, effectivement, même s'il y a le recrutement qui se passe, mais ce recrutement-là est suivi par une pression de quelqu'un. Et ils oublient que s'il n'y a pas les montants qui sont convergés dans les trésors publics, c'est la population qui en pâtisse. Tous ces gens-là sont enviés aujourd'hui. Ils ont des beaux véhicules de luxe, ils ont des belles maisons. Si vous suivez bien ce qu'on est en train de les payer, cette somme-là n'arrive pas à organiser, il ne peut pas arriver à organiser tout ce qu'ils ont là-bas.
Le train de vie qui... Voilà, donc vous estimez que le train de vie de plusieurs douaniers ne reflète pas la réalité des salaires de leurs revenus. Merci beaucoup, Justin. Alors, Franck, vous êtes à Vienne. Bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs.
Bonjour notre ami Gère, bonjour à vos deux invités au studio, bonjour à tous les amis congolais avec qui nous allons nous échanger.
Vous êtes congolais, vous vivez en Autriche et vous connaissez quelques réalités de la RDC. Et quelle est votre contribution dans cette émission?
Merci beaucoup pour la parole. Je ne veux pas seulement objecter par rapport à ce qui se passe dans nos services douaniers, mais je vais peut-être tenter de poser des objections comparatives par rapport à ces flots de la corruption.
Franck, pour vous gagner du temps, restons dans les sujets, les codes de bonne conduite qui ne concernent que la DGDA.
Oui, moi je crois que je dois d'abord commencer par saluer cette initiative mais saluer sans me taire, saluer en me posant aussi des questions par rapport aux efforts antérieurs. Parce que quand on parle de ce code de bonne manière, de ce code contre la corruption, on ne devrait pas seulement s'arrêter à ce qui se passe dans nos services, dans nos régimes douanières, mais nous devons peut-être tenter de voir avec quelle structure judiciaire, avec quel pouvoir judiciaire sommes-nous capables de combattre ces flots de corruption chez nous. Pourquoi je le dis? Parce que la corruption chez nous, elle est réelle, elle existe, elle a ses traces, nous savons comment elle se vit, nous savons par qui elle s'applique, nous avons des preuves, mais parfois quand on les dénonce, même quand bien même on a des preuves, on se rend compte que notre pouvoir judiciaire se trouve dans l'incapacité, soit de sanctionner les auteurs de ces actes, ou de mettre tous ces gens-là hors d'état de nuire. Et à ce niveau-là, on doit se demander seulement un code de bonne conduite érigé pour les douaniers, ça apporterait quel résultat par rapport à
Franck, vous savez,
Franck, dans les autres services.
Oui, Franck, vous êtes sans ignorer que en ce moment, les pouvoirs en place a besoin des moyens ou encore avoir la politique de ces moyens pour arriver à relever plusieurs défis auxquels il fait face. Alors aujourd'hui, pour relever ces défis et pour avoir des moyens, tout doit passer par l'élargissement de l'assiette de l'État. Donc notamment les services des régies financières qui doivent être mises à contribution. Et par conséquent, la corruption doit être, la lutte contre la corruption doit être le cheval de bataille des dirigeants de ces services pour arriver au résultat.
Oui, mais je comprends correctement ce que vous me rappelez là, mais je crois qu'avoir des moyens, c'est un aspect, avoir la volonté politique pour bien faire, c'est une autre. Avoir un patriotisme pour d'abord être honnête à tous ces lieux de travail, c'est aussi un autre aspect. Parce que on parle de l'argent, il faut bien payer ces gens-là. Mais est-ce que c'est seulement à cause de ces paiements que les corruptions se pratiquent chez nous? Je doute fort. Parce que même ceux qui ont des salaires respectables sont encore impliqués dans des coups de corruption. Il y a par exemple un dossier qu'on vient de mettre à la place publique, mais au lieu de laisser que les enquêtes puissent être menées pour déterminer la part des responsabilités, nous voyons comment on cherche à taire la curiosité, l'intention de taire pour mener des enquêtes.
Merci beaucoup.
Et seulement,
merci.
Vraiment, mon ami Gilles, vous allez nous faire croire que c'est seulement cet acte de bonne conduite des services douaniers qui vous mettrait vraiment fin à tous ces flots de corruption. Il y a d'abord la
parce que
de la justice, l'indépendance du pouvoir judiciaire, de bien faire, de bien sanctionner. Seulement dire qu'on va mettre la corruption à côté sur base des textes, je crois que ça n'ira pas loin. Il faut d'abord qu'il y ait aussi la volonté politique manifeste. Et cette volonté politique, je me demande vraiment si nous l'avons de nos jours.
Voilà, merci beaucoup. Avant de revenir à nos des invités, c'est vrai, Franck, il faut quand même retenir, je crois, sous contrôle des invités. Ngandou, vous allez intervenir, mais est-ce que vous partagez l'avis que la corruption peut limiter considérablement la capacité de la douane à remplir efficacement les missions lui dévolues et l'empêcher ainsi de répondre aux attentes des pouvoirs publics et de la population? Maître Ngandou.
Oui. Et puis vous savez que j'allais dire que dans le cas d'espèce, lorsque nous parlons de la corruption, à mon avis, je pense que le code qui est un acte sous sein privé devrait, à mon avis, définir ses propres manquements et en prévoir les sanctions.
Les sanctions,
oui. Vous savez, dans le cas d'espèce, les sanctions, ce sont des sanctions d'ordre administratif. Qu'il fallait parler. Et lorsque vous parlez de la corruption, vous parlez des conclusions, vous parlez des détournements, ce sont des faits infractionnels qui sont prévus dans notre code pénal que tous les services de l'État concernés par ces fléaux devraient être concernés, devraient être, à mon avis, intéressés. Mais je trouve aussi un peu flou de voir que ce sont tous les services qui sont concernés par ces fléaux. Mais un seul service se permet d'élaborer son propre code qui devrait appliquer à ses propres agents. Et pourtant, dans la fonction publique, il y a la déontologie qui devrait être respectée. Et il y a des sanctions administratives, hiérarchiques. Vous savez, toutes les sanctions là qui sont prévues dans le coup de...
Oui, mais vous êtes juriste, Gandou. Au-delà de la loi, il y a quand même des mesures d'accompagnement. Et chaque service est censé, avec les ministères de tutelle, élaborer des mesures d'accompagnement.
Bon, quand vous parlez de mesures d'accompagnement, mon cher, ce ne sont pas des actes que les services... moi, je sais que le DGDA, c'est un service public. Actuellement, si je ne me trompe pas, c'est un service public. Et dans le cadre d'espèce, il y a des textes qui régissent
les statuts des fonctionnaires.
Ça existe déjà. Et puis, dans le cadre d'espèce, mon avis, c'est comme vous l'avez entendu, les invités ont dit qu'il y avait, au départ, il y avait un cri d'alarme qui répertoriait ces services parmi les services les plus corrompus. Et à leur niveau, ils ont décidé de consulter l'OPEC pour combattre à travers un code de bonne conduite. C'est pour cela que j'ai dit, en tant que service de l'État, il y a des codes, il y a des cours de déontologie qui sont dispensés et que les agents de tous les services devraient respecter.
Merci beaucoup, Gagné.
Ils ne respectent pas. Pardon, je voulais finir.
Oui, rapidement, parce qu'on doit accorder la parole également à nos invités.
Oui, et puis, sans vous mentir, je vous dis une chose que les agents de l'État, aujourd'hui, à tous les niveaux. Lorsque vous avez une portion de responsabilité, vous en faites votre champ, bilanga, non, là, et vous vivez de ça. Donc, c'est vraiment difficile à déterrer parce que chacun à son niveau sait profiter des avantages de ces services, que nous appelons des services adaptés, et demander ou soit obtenir tout ce qui est octroyé. C'est ce qui fait marquer la différence qu'il y a entre la rémunération et ce qu'ils possèdent comme bien. Et c'est pour cela que je disais que c'est pas facile à éradiquer ces fléaux si c'est pas la conscience collective.
Merci beaucoup, Ngadou. Alors on revient à vous, Monsieur Aron. C'est vrai, vous êtes inspecteur général auprès de la DGDA. Vous avez écouté les uns les autres. Quelle est votre réaction?
Ah oui, dans l'ensemble. Les réactions sont tout à fait bonnes. Ils ont salué, pour la plupart, ils ont salué cette signature du code déontologique du douanier, ce qui est une bonne chose, parce que c'est un outil de travail qui est déjà là, et le fait qu'ils reconnaissent que c'est un bon outil qui est mis en place, ça nous félicitons. Et il y a Monsieur Jules à Lubumbashi, il a demandé à ce qu'il y ait le suivi. Tout à fait normal. S'il n'y a pas de suivi, effectivement...
Il y a un acte d'engagement que devra signer agent.
Voilà. Le suivi sera bel et bien assuré, d'autant plus qu'il y a un acte d'engagement à signer. Alors, c'est une bonne chose. Il y a M. Justin Afunguroumé qui a également salué l'avènement de ce code déontologique du douanier. Quand bien même il a parlé d'autres tard, entre autres, au niveau du recrutement, mais à ce que je sache, à la DGDA, il n'y a pas que les enfants des ministres, il n'y a pas que les enfants des douaniers, non. À la DGDA, il y a tout le monde. Et le DG Ruguiza, jusque-là, en tout cas, il fait mieux. Il tient compte de la méritocratie. C'est pourquoi... on n'engage pas n'importe comment.
Est-ce que l'École nationale de finances existe toujours?
L'École nationale de finances...
Et permet quand même aux étudiants qui sortent de cette école pour venir travailler à l'OFIDA.
Oui, il y a une chose. L'École nationale de finances n'est pas vraiment une école pour recruter les douaniers. Et ceux qui sont déjà au travail, ils
sont envoyés aux études.
Ils passent leur concours d'admission à l'École nationale des finances. Bon, justement, une opinion est tout à fait vulgaire, s'est répandue, comme quoi il faut entrer là pour être engagé à la douane. Mais je ne pense pas que ça soit cela.
Oui, parce qu'à une certaine époque, il y avait des étudiants qui sont sortis de cette école et qui ont été affectés par les ministres de la fonction publique. Et ça créait quand même pas mal de confusion.
Oui, bon, de toutes les façons, on n'engage pas que ceux qui sortent de l'École nationale des finances. À la DGDA, quand il y a vacances de postes, on affiche aux valves. hein, à la direction générale ou dans nos directions provinciales, on informe, on publie les vacances qu'il y a. Et si les CV de quelqu'un rencontrent les besoins, il est engagé.
Il est engagé.
Oui.
Voilà. Alors, parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé des sanctions qui devaient peut-être suivre, je ne sais pas, entre vous deux, ou M. Émile, qui peut... quelles sont les sanctions qui sont prévues? Parce qu'il faudrait quand même que l'agent, en prenant connaissance de cet acte d'engagement, qu'il sache, dans ses codes, qu'est-ce qui est prévu, comment peut-il être sanctionné?
Oui, bien avant, merci beaucoup pour la question, bien avant que M. Émile Kalonji de l'OCEP puisse répondre, je voudrais d'abord relever un fait. Il y a beaucoup de douaniers qui ont été sanctionnés dans les années passées ici, révoqués, ils ont perdu leur emploi.
Une fois 2013-2014.
De 2005 jusqu'à l'année passée, là, il y a eu beaucoup de douaniers révoqués. C'est pour dire que déjà, il y a la rigueur. Hein? Déjà, il y a des mesures coercitives que l'entreprise a mises en place. Dès lors que quelqu'un se retrouve en flagrant délit, il est révoqué. Ou alors, suspendu, il y a toute une batterie de mesures coercitives. Donc, ça ne va pas commencer...
Mais aucun disent que le fait que la permutation des agents soit lente, serait aussi à la base de la consécration de cette corruption. Parce que quand vous prenez un douanier qui reste à un endroit, à une province, pendant des années, finalement, il crée un effet il s'est familiarisé avec la population et, par conséquent, il devient ami et puis il va faire des facilitations.
Oui, bon, ça, je crois que ça relève de la compétence de l'autorité, oui, mais à ce que je sache, dernièrement, il y avait une mesure comme quoi, parce qu'on est passé par l'échéance électorale, il y avait en quelque sorte des garde-fous qui étaient mis en place, qui ne voulaient pas qu'on déplace les gens.
Non seulement qu'on recrute, voilà, qu'on ne puisse pas permettre, que ça reste comme ça. Voilà. Donc c'est ce qui a fait que les gens sont restés pendant dans l'attentisme. Merci beaucoup. Voilà. Alors, M. Émile, allez ajouter quelque chose.
Oui, je vais ajouter quelque chose. Il n'y a pas tout simplement de sanctions négatives. Le code a prévu aussi des sanctions positives. Sanctions positives, c'est comme un mot d'encouragement pour un agent qui a bien travaillé. Ça peut être une lettre de félicitations. Ça peut être aussi une prime, même une promotion en grade, ou même une décoration, c'est ça. Donc nous ne sommes pas dans un pays totalitaire, où on ne voit que la sanction négative. Il y a, à côté de la sanction négative, il y a aussi la sanction positive, pour encourager.
Parce que vous faites des sondages, vous, au niveau de l'OCEP, est-ce que vous avez senti la nécessité de ces codes au niveau de la DGDA?
Bien sûr. Regardez un peu, nous suivons un peu la courbe des recettes de la DGDA depuis 2005 jusqu'à maintenant. Vous pouvez voir comment les recettes sont en train de monter. Et si vous voyez même la contribution de la DGDA au trésor public, c'est quelque chose. C'est plus que les autres. Ouais.
Donc, alors vous l'avez fait uniquement pour la DGDA ou d'autres entreprises, notamment les régies financières?
Oui. Nous avons écrit des lettres pour approcher les autres régies financières. Mais nous avons trouvé toujours une résistance.
Oui, parce que si le travail est fait de manière incomplète, ça risquerait d'avoir l'efficacité d'un seul côté et de l'autre côté, les cadres boiteux,
bien sûr,
ça risque d'avoir des conséquences néfastes.
Il y avait le ministre des Finances à l'époque, 2005, qui avait demandé à toutes les régies financières d'entrer en contact avec l'OCEP pour l'élaboration des codes spécifiques.
Il n'y a que la DGDA.
Oui. Conséquence, regardez comment la courbe de recettes de la DGDA est en train de monter.
Voilà. Alors, on va écouter d'autres auditeurs qui nous ont rejoints, puis on va revenir à vous. Patrick, vous êtes à Bandaka, et puis Félicien à Kinshasa. Patrick, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour, M. J.R.
Quelle est votre contribution, Patrick?
Merci beaucoup. Je suis très content pour l'émission et puis par le fait que vous accordez la parole. Je suis content pour le travail qui est fait. Mais la première chose que je voulais vous faire remarquer, que c'est une gouttelette d'eau dans la mer. Parce que quand on parle seulement de la DGDA, alors qu'il y a beaucoup de services, il y a beaucoup de régies financières, qu'il pouvait aussi faire autant pour que nous puissions prendre une même base et puis un même décollage pour que nous puissions s'envoler. Alors, qu'à cela ne tienne, je voudrais dire ceci, comme les gens ont déjà dit, les gens ont signé, c'est pas mal, le code de bonne conduite. À côté de ça, l'acte d'engagement, moi, j'ai voulu qu'on puisse parler à terme des contrats de performance. C'est-à-dire, à tous les niveaux qu'on puisse signer, les agents doivent signer avec les autorités, autorités avec la hiérarchie et ainsi de suite. Parce que JR, il y a une situation qui se pose quand vous allez par exemple à Mag, j'ai eu la chance d'effectuer une course là-bas. Vous trouverez que les gens qui effectuent des missions à Mag, à la frontière de Mag, à la douane là-bas, vous trouverez des ordres de mission qui vont aller jusqu'à 200, 300 ordres de mission. Les agents qui effectuent les ordres de mission, l'argent sort comme ça. Et alors que les gens qui envoient les gens en mission, ce sont ces gens-là qui doivent les payer. Mais ils reçoivent leur argent. En plus de ce qu'on leur donne, ils vont là-bas au niveau de la base, ils reçoivent l'argent. Ça ne va pas. Le problème de la corruption ici, c'est tout de bonne conduite pour les agents. C'est une bonne chose. C'est question de conscientiser tout simplement ces gens, de leur faire signer les contrats de performance et qu'ils craignent les bons dieux. De cette manière-là, je crois qu'on peut faire quelque chose. Il y a aussi quelque chose qu'on peut retenir. Ici, à Kinshasa, vers les années 72, rien qu'avec les frais qu'on récoltait au Bichingobila, ça payait tous les fonctionnaires de Kinshasa. Mais, alors, pourquoi cela était possible à ce temps-là et où en sommes-nous aujourd'hui, M. Gier? Voilà la question que je me pose.
Voilà, merci beaucoup, Patrick, d'avoir contribué dans cette émission. On va écouter Félicien. Félicien, vous êtes avec nous à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi et à vos invités.
Alors, Patrick a dit, vers les années 72, les frais qu'on récoltait simplement au niveau des Bichingobila, en termes des douanes, des taxes et autres frais qu'on payait, ça pouvait payer en tout cas un bon nombre de fonctionnaires. Et au niveau du Mahagi, il évoque quand même quelques problèmes, mais il demande à ce que soit accompagné des contrats de performance, hein, donc ces codes de déontologie ou ces codes de bonne conduite qu'on fait signer aux agents des douanes et accises.
Oui, les contrats de performance, il y en a dans presque dans toutes les entreprises, mais ça n'a rien changé dans le vécu quotidien de notre pays. Moi, je vais vous dire que, à commencer par la Constitution, jusqu'à toutes les lois qui existent dans ce pays, aucune loi n'autorise la corruption dans notre pays, mais la corruption est là, et même très très répandue. Et c'est pas avec des codes de déontologie sectorielle qu'on va résoudre les problèmes de la corruption dans ce pays, mais c'est tout un mode de vie, c'est toute une culture que nous devons chercher à changer et adopter, et comme partout ailleurs. La corruption existe partout dans le monde, mais chez nous, vraiment, c'est vraiment ça de passer les limites, et au point que
Oui, mais est-ce que Félicien, est-ce que vous êtes conscient que la déperdition des recettes publiques et la contraction des moyens de l'État serait en grande partie due aussi à la corruption des douaniers?
Exactement, ça c'est connu. C'est connu, et il y en a des gens qui ont déjà parlé de ça. Quand on voit les vies des douaniers et aux vies aussi de tout le monde, des personnes inquiètes. Et puis, comment voulez-vous que les codes de déontologie douaniers ou quoi puissent changer les choses? Si le ministre lui-même trouve que quelqu'un qui n'a pas respecté ses codes et son frère, il va intervenir et on ne va pas les sanctionner. Donc, c'est un problème général au niveau de la nation. Nous devons changer. Donc, ça veut dire que ceux qui nous dirigent et même doivent donner l'exemple. Et à partir de l'exemple, ils doivent changer la situation de tout un pays. Et c'est de cette façon-là que nous sortirons de ces problèmes qui gangrènent la vie économique et la vie politique de notre pays. Parce que vous comprenez... Vous allez demander à celui qui est DG de la DGDA de respecter les codes de déontologie de son entreprise. Et ceux qui sont ailleurs sont en train de voler, de piller, et lui il va rester à observer ces codes-là. Non, moi je pense que c'est un problème général et on doit le faire de façon générale. parce que aucun père de famille ne va demander à ses enfants de ne pas.
Oui, oui, mais je crois que l'idée
de tout un paquet.
Oui, Félicien.
Est-ce que dans son salon.
Oui, Félicien, quand le chef de l'État prend en compte cette question de la lutte contre la corruption en mettant sur pied et même une structure pour le changement des mentalités, est-ce que vous ne pensez pas que on ne doit pas simplement, ou chaque service de l'État doit ne doit pas seulement attendre que cette structure puisse descendre et travailler, chercher la solution à ces problèmes, ou plutôt au niveau de la base, commencer déjà à réfléchir sur des structures à mettre en place afin d'arrêter cette hémorragie?
Oui, ce que le chef de l'État a dit, c'est très bon, mais c'est déjà entendu et déjà vécu depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai vu que le chef de l'État puisse emprunter l'exemple de Thomas Sankara, qui a prêché par l'exemple. C'est ça qui peut changer les choses.
Merci beaucoup, Félicien. Michel, vous êtes à Guadolite. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Voilà, Michel n'est plus en ligne. Sonville, vous êtes avec nous à Lubumbashi. Bonjour, maître Sonville.
Allô?
Maître Sonville, vous avez la parole.
Bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Okapi.
Quelle est votre contribution, maître Sonville?
En tout cas, je n'ai pas suivi la thématique, donc vous ne pouvez pas me rappeler ça.
Voilà, on va vous rappeler plus tard, maître Sonville. 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention en direct.
Un jour, une histoire. Un magazine sur le soir du Congo. Révivez les événements importants et historiques du Congo. Découvrez le personnage et acteur de notre histoire ainsi que leur rôle. Un jour une histoire, c'est l'histoire récente et passée du Congo. Retrouvez toute l'équipe tous les dimanches à 8h30, heure de Kinshasa. En rediffusion le dimanche à 8h30 et 20h30. Le mercredi à 14h. 15.
Voilà, Michel, vous êtes avec nous, vous nous avez également rejoint. Bonjour, Michel.
Oui, bonjour. Bonjour à tous les fidèles auditeurs de la radio Capi. Je salue à sa juste de valeur la thématique d'aujourd'hui, et surtout que la parole de la corruption, étant donné que c'est la corruption qui constitue bel et bien le cancer de la République démocratique du Congo sur tous les plans et dans tous les secteurs. En tout cas, c'est vraiment un bon sujet. Ben, je voudrais quand même placer un mot pour dire que lutter contre la corruption dans le DGDA, ce n'est pas une mauvaise chose, mais que depuis 2005, si j'ai vraiment bonne souvenance, que cela a été sur pied, l'écriture des luttes contre la corruption au sein de DGDA. Mais nous ne sentons pas vraiment l'impact de ces structures depuis l'avènement du DG des GDA à la tête de cette structure étatique. Alors, il se pose un problème pour dire que le vrai problème, ce n'est pas que l'exécutif lui-même puisse être le juge et parti. C'est ça le vrai problème. On a comme l'impression que l'exécutif veut se substituer à la justice, qui est un organe indépendant. La conséquence est que tout ce qu'ils prennent comme décision, ça se limite au niveau de la lettre, mais dans l'exécution des choses.
Voilà, vous évoquez encore le problème de suivi, comme l'ont dit vos prédécesseurs. Merci beaucoup. Alors, on revient à vous, monsieur Aron. Vous êtes avec nous, monsieur Aron Tchani, vous êtes inspecteur général au niveau de la DGDA. Aujourd'hui, c'est vrai, est-ce que vous reconnaissez quand même que le niveau de confiance en l'administration des douanes avait vraiment sensiblement diminué lorsque cette question de la corruption semble être difficile à résoudre au niveau de la DGDA?
Oui, messieurs les journalistes, je suis inspecteur des douanes, pas inspecteur général. C'était juste
Le correctif,
oui. Le niveau de confiance, oui, c'est tout à fait vrai. Le niveau de confiance avait baissé, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et je sais que les usagers de douanes sont maintes fois sensibilisés sur tous les outils de travail de la DGDA. Ils ont leur corporation et ils sont en contact avec la DGDA chaque fois. Alors, il n'y a pas vraiment crise. Il n'y a pas crise entre la DGDA et les usagers de douane le niveau de confiance à ce que
Mais même quand il y a crise, il y a tout un service de contentieux au niveau de la DGDA.
Justement. Mm-hmm. Donc, pour moi, le niveau de confiance est bon. Il n'y a pas de quoi s'alarmer.
De quoi s'alarmer. Oui. Alors, parce que le niveau, il est bon, on sait tout de même qu'il y a quand même cette confusion-là qui est dans le chef des uns et des autres. Quand on va, par exemple, dans un poste frontalier, on pense que tous les services qui se passent là, c'est seulement la douane. Parce que là, il faut éclairer aussi. Sinon, c'est pratiquement... Je suis allé dédouaner un véhicule à Beaumont, et finalement, tous les frais que j'ai pu payer... Nulle part j'ai vu que tous les frais là, c'est la douane qui les percevait ou c'était uniquement pour la DGDA.
Justement, monsieur le journaliste.
Mais c'est là où il faut maintenant sensibiliser la population.
Voilà.
Là, c'est déficit.
Là, c'est un peu au niveau de la DGDA. Le gouvernement a réglementé des services qui doivent prester aux frontières. Mais il arrive deux fois qu'il y a immixtion de certains services non habilités à travailler aux frontières. Mais ces services se retrouvent là. On a maintes fois décrié cela. Je crois que les autorités sont sur les dossiers. Pas plus que, je crois, il y a un ou deux mois. Il y a même un douanier qui était arrêté à l'aéroport parce que tout simplement, il avait voulu arrêter un colis en fraude, qui passait par la fraude. Mais les douaniers étaient mis à l'écart à l'aéroport. Et voilà, il y a immixtion de certains services qui ne sont pas habilités à travailler aux frontières, mais ils sont
que
là.
Les gens confondent parfois la DGDA,
voilà,
au douanier.
Voilà.
Voilà. Alors la question des tracasseries, vous l'avez si c'est bien dit, il y a cette question de pédagogie, de sensibilisation qu'il va falloir faire auprès de la population pour que chacun puisse comprendre qu'effectivement il n'y a pas que la DGDA, il y a d'autres services, notamment l'ONATRA ou la SSC pour ceux qui sont à Lubumbashi, et il y a d'autres services qui entrent aussi en jeu pour permettre à canaliser les recettes de l'État.
Voilà, justement c'est ça.
Voilà. Alors les conflits d'intérêts, un douanier peut tomber facilement aussi dans un conflit d'intérêts parce qu'il peut être lui-même jugé parti. Est-ce que le code prévoit des sanctions aussi quant à ceux?
Bien sûr. Les sanctions qui sont prévues ici, ce sont des sanctions qui ne sont pas exclusives seulement aux règles déontologiques ou bien non,
les sanctions administratives.
Même au conflit d'intérêts. Si par exemple vous êtes passible, vous avez un frein. Par exemple, le conflit d'intérêts, vous êtes passible d'une sanction.
Mmh. Oui. Parce que nous voyons un douanier qui est lui-même un affairé ou affairiste, si vous passez les termes, il a ses affaires et puis il doit importer, il se retrouve dans ces cas, il cherche des privilèges. Il peut chercher des privilèges.
C'est prévu.
Est-ce qu'il bénéficie des privilèges ou il doit être assujetti comme tout le monde? Monsieur Aron, un douanier.
Oui.
Qui est affairiste ou un affairé, si vous voulez, qui se retrouve dans un cas où il cherche des privilèges auprès des douanes. Est-ce que le code le prévoit? Ou il doit subir la loi de statut des agents et fonctionnaires de l'État?
Non, avant tout,
il ne peut pas faire les commerces.
Un douanier ne peut pas faire les commerces. Donc c'est déjà faux. Un douanier ne peut pas être un affairiste et par conséquent solliciter des avantages. Non, cela c'est punissable. Si on découvre qu'il y a un douanier qui...
Parce qu'il s'est tombé dans les conflits d'intérêts, si lui-même il est aussi chargé de pouvoir aider à faire appliquer les services de douane.
Tout à fait. Donc, un douanier ne peut pas se livrer à une activité commerciale au point d'importer en son nom des marchandises et solliciter des intérêts. Non, cela ne peut pas se faire.
Patrick, vous êtes à Bounia, vous nous avez également rejoint. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Quel est votre avis?
Bonjour Patrick,
quel est votre avis?
Oui, je vous remercie pour m'avoir associé à cette recherche d'idées sur les bonnes conduites d'un agent de l'État au niveau de la DGDA. Moi, je voulais d'abord me poser la question de savoir les codes de bonne conduite et les instructions officielles que l'État congolais a déjà établies, que le législateur a déjà établi au niveau national, même au niveau provincial. Je pose la question de savoir, est-ce que c'est le code de bonne conduite vient en appui aux instructions officielles, parce que nous avons les instructions officielles. Tout est là, dedans, et les infractions, et tout est déjà planifié. Et en deuxième lieu, je voulais parler aussi du recrutement, parce que moi-même, je suis victime. Nous avons postulé au niveau de la DGDSI à Nitoré, mais malheureusement, on a, à notre grande surprise, on va aller afficher une liste des noms qui n'habitent pas à Bounia, qui ne sont pas à Bounia. Et je ne sais pas s'ils ont piqué où ces noms-là pour venir afficher. C'est une réalité un peu contradictoire. On se pose la question, est-ce qu'on est à l'RDC ou soit il y a seulement un groupe déjà qui est désigné pour travailler dans ces entreprises-là, ou soit on n'a pas étudié. Ce sont des inquiétudes qu'on se pose. Et à ce niveau, maintenant, je voulais savoir...
Voilà. Donc, si je comprends un peu votre pensée, vous voulez que cette lutte contre la corruption puisse commencer au niveau du recrutement. Parce que si on recrute un agent des douanes qui est qualifié pour cela, il a déjà en lui cette formation de pouvoir faire appliquer l'éthique et la déontologie des douaniers, et ça donnerait des résultats. Sinon, on peut beau lutter maintenant, mais parce que le recrutement s'est fait comme il fallait, le résultat ne sera pas celui escompté.
Oui, oui.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, la lutte doit être au niveau du recrutement. Monsieur Aron.
Oui, justement, le recrutement doit être
rigoureux,
fait dans des conditions de méritocratie. J'insiste, je reviens sur le mot méritocratie. On n'engage pas pour le besoin d'engager. On engage quand il y a un besoin, et ce besoin rencontre un CV conséquent. On n'engage pas pour
le besoin d'engager. Est-ce qu'un inspecteur douanier peut sortir de nulle part, ou peut-être vous suivez une formation adéquate?
Bon, déjà, à l'engagement. Hein,
c'est sélectif?
C'est sélectif. C'est selon les besoins qu'il y a. On n'engage pas juste pour le besoin d'engager, pour avoir un pléthore, des effectifs, non. On engage quand il y a un besoin et on publie cette vacance-là et les gens postulent. Si leur CV rencontre...
Ce n'est pas besoins, par rapport à l'ancienneté, quelqu'un qui a fait longtemps la DGDA et on le prend comme inspecteur parce que là, au moins, il sait comment canaliser les recettes.
L'inspecteur, ça, là, vous parlez des fonctions. Mmh. Hein? Quelqu'un qui a tel nombre d'années au service, oui, mais ça ne vient pas de soi. Encore une fois, je reviens sur le mot méritocratie. L'autorité doit voir si tel ou tel mérite d'être, de connaître l'avancement en grade ou en ce que vous appelez fonction. Hein? Donc, fonction ou grade, c'est selon la méritocratie. Et ça, c'est la politique managériale du DG. On peut engager quelqu'un, mais tout se passe sur base de la méritocratie.
Voilà, disons-le que l'élaboration, la publication et l'acceptation de ces codes de conduite constituent, selon même la déclaration d'Arusha, qui venait d'être révisée d'ailleurs, un des éléments clés de tout programme efficace en matière d'éthique. Oui. Donc nous supposons que cela donnera de résultats dans les jours à venir.
Oui. Bien sûr.
Voilà, wait and see, nous reviendrons à vous, à moins que vous ayez un dernier mot.
Non, je suis tout à fait content que nos auditeurs aient salué la signature de ce code déontologique du douanier. Et merci.
Voilà, merci. Voilà, juste un mot.
Un mot. Il y a un auditeur qui a parlé de
la loi. Rapidement, on a appelé juste une
phrase. La loi. L'OCEP a déjà élaboré la loi anticorruption qui se trouve déjà au niveau du gouvernement.
Voilà,
et nous comptons faire une grande enquête sur le taux de pénétration de la corruption dans toute la RDC.
Aaron Tchani, inspecteur en douane au niveau de la DGDA, merci. Émile Kayembe, voilà, c'est Clément Tambay Kalogi. Merci d'avoir été de notre site. Vous êtes de l'OCEP, directeur administratif et financier. Voilà, on prend rendez-vous avec vous demain dans un autre numéro de Parole aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.